passe leur petit vieux pas plus vite. Vous voyez les objections? On a vu le cadre de la première. On corrige l'homme précisément pour qu'il ne pêche plus. Si celui qui est dans le péché mortel ne peut pas ne pas pécher, il est inutile de le corriger, ce qui n'est pas impossible. Alors, la correction est utile afin que la douleur de la correction fasse naître la volonté de la régénération. Si toutefois celui que l'on corrige est enfant de la promesse, en sorte que, en même temps que la correction, retentit extérieurement et flagelle Dieu aussi. Retentit extérieurement et flagelle Dieu aussi. Opère intérieurement dans le coupable par une inspiration secrète le vouloir, comme l'explique saint Augustin dans son ouvrage sur la correction et la grâce. C'est donc pour cela que la correction est nécessaire, parce que la volonté de l'homme est indispensable pour qu'il s'abstienne du péché. La correction ne suffirait pas sans le secours de la grâce, d'où cette parole de l'Ecclésiaste: considère les œuvres de Dieu et vous verrez que nul ne peut corriger celui dont Dieu s'est détourné. Donc ça, c'est facile à comprendre. Hein? Dans toute œuvre de Dieu, Dieu veut la coopération de l'homme. Dieu ne peut agir que si nous agissons avec lui. Ça, c'est sûr. Donc l'homme se détourne de Dieu sans Dieu, et l'homme ne peut retourner vers Dieu qu'avec Dieu. Mais il faut qu'il y ait cette bonne volonté de l'homme. Paix aux âmes de bonne volonté. C'est toujours la même chose. Plus la grâce est forte, plus Dieu veut la coopération de l'homme. Mais la coopération de l'homme va avec la grâce. Il ne faut pas nous séparer hein, ce que Dieu a uni. Alors qu'il faut comprendre que c'est Dieu qui veut cette coopération. Alors ici, c'est exactement ce qui nous est montré ici. Considérez les œuvres de Dieu et vous verrez que nul ne peut corriger celui dont Dieu s'est détourné. Donc, on ne peut pas corriger un homme sans le secours de Dieu. Mais Dieu attend que l'homme se corrige aussi lui-même. Autrement, on tomberait dans une espèce de passivité qui serait fausse. Dieu veut toujours notre concours. Et plus la grâce est forte, plus Dieu veut ce concours. Alors, dernière objection, il est écrit dans l'Ecclésiastique: l'homme a devant soi la vie et la mort, le bien et le mal. Ce qu'il aura choisi lui sera donné. Or, celui qui pêche ne cesse pas pour cela d'être un homme. Donc, il garde le pouvoir de choisir le bien et le mal, et par conséquent, d'éviter le péché sans la grâce. Alors, comme l'enseigne saint Augustin, vous voyez que saint Augustin est toujours présent ici, hein. C'est vraiment une herméneutique de saint Augustin. Vous pouvez dire ça, ce que vous attendez de cet article. Comme l'enseigne saint Augustin, la parole de l'ecclésiastique, citée dans l'objection, doit s'entendre de l'homme dans l'état de nature intacte, quand il n'était pas encore esclave du péché. Il pouvait alors pécher ou ne pas pécher. Maintenant encore, tout ce que l'homme veut lui est donné, mais si c'est le bien qu'il veut, c'est par suite un secours de la grâce. Je confirme tout simplement ce qui a été dit encore de l'article. Évidemment, si vous avez le temps, vous devrez se mettre à lire le livre de saint Augustin sur le point de vue de la correction et la grâce et la perfection de la justice. Vous voyez tous les livres de saint Augustin qui sont impliqués dans cet article-là. C'est intéressant à noter ça. Parce que n'oubliez pas, quand il s'agit de la grâce, le lieu important, c'est saint Augustin, face à Pélage. Et le lieu important, c'est saint Augustin, commenté ensuite par Luther. Et le lieu important, l'interprétation de Saint Thomas, vous voyez. Et c'est ça qui serait intéressant à voir. Là, ce serait au point de vue historique, et au point de vue histoire de la doctrine, quelque chose de très important. Vous voyez. Alors, ça demande un tout petit résumé ici, hein, un tout petit résumé, mais sous-jacent tout cela. Alors, ceux qui s'intéressent à cette doctrine de la grâce, n'oubliez jamais Saint-Augustin. C'est Saint-Augustin qu'on doit voir. Vous voyez, alors on voit le point de vue de Saint-Augustin face à Pélage et Saint-Augustin commenté par Luther et l'interprétation de Saint-Thomas. Il n'est pas commenté. C'est sûr, c'est important, mais c'est pas commenté. Article 9. Celui qui est déjà arrivé à la grâce peut-il de lui-même et sans un autre secours de la grâce faire le bien et éviter le péché? Parce qu'au fond, c'est ça qui est impliqué dedans, cette partie de cette question. Question, on pourra essayer d'en donner le résumé au terme, mais je crois que c'est très important de voir tout ce qui est impliqué dedans. Pour bien comprendre que le mystère des rapports de la nature et de la grâce s'insère dans tout un contexte, pas seulement historique, mais un contexte fondamental de l'économie. Oui. Alors, la grande vision de Saint-Thomas, c'est toujours comme ça. Je ne peux pas parler de nature et grâce sans regarder le point de vue de la justice originelle, sans regarder le point de vue du péché, donc nature inter, nature dans un état de péché. Corrompu. L'état de corruption. L'état de corruption est comprendre que la nature demeure dans cet état de corruption à cause des péchés. Et alors, on voit la grâce et la nature. Et c'est cette nature dans un état de corruption qui est reprise par la grâce. Oui, alors c'est ça qui est difficile pour nous. Hein. C'est pas commode du tout. Voir les rapports de la nature et de la grâce en soi, ce n'est pas les voir selon l'économie divine. Et de voir selon l'économie divine, c'est de comprendre que c'est toute l'histoire du salut qui est en cause. Alors voyez, puisqu'aujourd'hui on parle d'une théologie de l'histoire du salut. La théologie de l'histoire du salut devrait mettre en valeur ce que cette question, certainement, la nécessité de la grâce. C'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Parce que c'est quand même intéressant de voir cela. Le Vatican II nous demande de reprendre toute la théologie dans la lumière de l'économie du salut. Bon. C'est une question majeure pour l'économie du salut. La nécessité de l'intervention de la grâce doit s'inscrire dans cette perspective qui nous est montrée ici. Alors, article 9, celui qui est déjà arrivé à la grâce peut-il de lui-même, sans un autre secours de la grâce, faire le bien et éviter le péché? Sur grâce. La grâce qui nous est donnée, premier secours de la grâce, et un second secours de la grâce. Voyons donc la réponse de saint Thomas. Saint Augustin, dans son passage sur la nature et la grâce, écrit: de même que l'œil du corps, en aussi bon état qu'on le suppose, ne peut voir si l'éclat de la lumière ne vient l'aider, de même l'homme, si parfaitement justifié qu'il soit, ne peut vivre comme il faut s'il n'est aidé divinement par la lumière éternelle de la justice. Cette comparaison est très belle. Hein. Et vous voyez que derrière, il y a toute la grande économie de la connaissance. Ça, c'est très curieux. C'est la lumière. La lumière qui est acte du diaphane, comme disaient les anciens. La couleur est en acte et est capable de spécifier la vision, la puissance de voir. Donc la couleur est en acte grâce à la lumière. Vous voyez l'analogie, hein? C'est très très intéressant de voir ça. C'est très intéressant de voir cette analogie de Saint-Augustin. Je reprends pour que vous voyez bien. De même que l'œil du corps est en aussi bon état qu'on le suppose, ne peut voir si l'éclat de la lumière ne vient l'aider. Donc si la lumière vient éclairer la couleur pour permettre que la puissance soit spécifiée. De même l'homme, si parfaitement justifié qu'il soit, ne peut vivre comme il faut s'il n'est aidé divinement par la lumière éternelle de la justice. Donc l'aide de la justice, cet auxilium, cette aide de Dieu, est analogue à la lumière. Vous voyez, ça enlève tout. C'est très important ça, de comprendre ça. Parce que l'analogue, hein, la dynamis, la puissance de voir, la dynamis, est pris comme point d'analogie avec l'habitus de grâce, la justification, la grâce habituelle. Bien, cette dynamis ne peut s'exercer que grâce à la lumière. De même, la grâce ne peut s'exercer que s'il y a un auxilium de Dieu. Voyez encore de l'article, vous allez voir. C'est beau comme analogie, c'est très beau. Nous l'avons dit déjà, pour bien vivre, l'homme a besoin d'un double secours de Dieu. Donc, duplicitaire, auxilio gratiae dei indigens. Le premier, c'est le don habituel qui guérit la nature corrompue. Et après l'avoir remise en état, l'élève pour lui permettre d'accomplir des œuvres qui méritent la vie éternelle. Ce qui est au-dessus des aptitudes de la nature. Le second est un secours de grâce par lequel Dieu meut à l'action. Premièrement, donc, vous voyez bien, la grâce habituelle, l'analogue à la dynamis. On est capable de. Puis l'auxilium. Première grâce. Deuxième grâce. Le premier, c'est le don habituel, la grâce sanctifiante, qui guérit la nature corrompue, et après l'avoir remise en état, l'élève pour lui permettre d'accomplir, dans une capacité, d'accomplir des œuvres qui méritent la vie éternelle, ce qui est au-dessus des aptitudes de la nature. Le second est un secours de grâce, animodo digest, auxilio. C'est l'auxilium. Le second est un secours de grâce par lequel Dieu meut à l'action. Évidemment, celui qui se trouve déjà en état de grâce n'a pas besoin d'une nouvelle grâce habituelle infuse. Bien évident, comme celui qui a la dynamis n'a pas besoin d'une seconde puissance. Mais il reste qu'il a besoin de la seconde sorte de grâce. C'est-à-dire que Dieu le meurt à bien agir. Et c'est nécessaire pour deux raisons. La première, se tire de cette loi générale, déjà indiquée, qui veut qu'aucune créature ne puisse arriver à un acte, quel qu'il soit, si ce n'est en vertu d'une motion divine. Il ne peut agir que s'il est sous la notion divine. Vous voyez, ça fait couler beaucoup d'encre dans la scolastique, ça. C'est les prémotions physiques. C'est tout ça qui est reçu sur saint Thomas, hein, qui se prend à sur le texte de saint Thomas. Donc, la première se tire de cette loi générale déjà indiquée, qui veut qu'aucune créature ne puisse arriver à un acte, quel qu'il soit, si ce n'est en vertu d'une motion divine. La seconde est une raison spéciale qui vient de la condition présente de la nature humaine. La grâce, en effet, a bien pu guérir notre esprit. La corruption et l'infection demeurent dans notre chair, qui sert la loi du péché pour parler comme l'Épître aux Romains. Et même dans l'intellect règne encore une part d'obscurité et d'ignorance qui fait que, selon le mot de la même épître, nous ne savons pas adresser la prière qu'il faut.
la tournure variée que peuvent prendre les événements et aussi le peu de lumière que nous avons sur nous-mêmes font que nous ne pouvons dire vraiment ce qui nous convient. Les pensées des mortels sont timides et nos prévisions incertaines, dit la sagesse. Voilà pourquoi il est nécessaire que Dieu nous dirige et nous protège, lui qui sait et peut tout. Voilà pourquoi encore, ceux que la grâce a régénérés et qui sont devenus par elle fils de Dieu doivent dire « Ne nous induisez pas en tentation ». Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et tout ce qui, dans nos raisons dominicales, correspond aux mêmes besoins. Vous voyez, c'est pas comment faire, ça. Mais c'est très intéressant de voir comment saint Thomas interprète, donne une interprétation du texte de saint Augustin. Oui. C'est ça qui me semble le plus intéressant pour voir la précision que donne saint Thomas par rapport à la pensée de saint Augustin. Mais c'est intéressant parce que vous avez saint Augustin qui reste lui dans sa perspective spirituelle et qui donne cette grande analogie, cette grande vision de la grâce qui s'inscrit dans l'économie divine. Et dans la manière dont saint Thomas lui précise ces deux aspects, la grâce habituelle qui sanctifie, la grâce habituelle a besoin d'un auxilium pour l'exercice. Pas du tout l'exercice, cet auxilium. C'est la motion particulière qui nous est donnée par Dieu. Mais il reste qu'il a besoin de la seconde grâce, de la seconde sorte de grâce, c'est-à-dire que Dieu le même a bien agi. C'est pas suffisant d'avoir la grâce habituelle. Parce qu'on peut très bien avoir la grâce habituelle et rester dans un état d'inertie. On reste dans un état d'inertie. Et alors, il faut cet auxilium. Il faut ce secours de Dieu pour pouvoir passer à l'exercice. Et c'est nécessaire pour deux raisons. Voilà les deux raisons que donne saint Thomas. La première se tire de cette loi générale, c'est-à-dire la première se prend de ce que représente d'une façon générale la différence entre la dynamis et l'exercice. Il y a deux choses. Le passage, la grâce sanctifiante, c'est nettement ce qui nous donne une capacité. Une capacité. Mais la capacité n'est pas suffisante pour expliquer l'acte, l'opération. Pour expliquer l'opération, donc l'exercice. Le passage de la capacité à l'exercice. Donc le passage de la grâce sanctifiante, il faut pour l'exercice un auxilium. Donc la première se tire de cette loi générale déjà indiquée, qui veut qu'aucune créature ne puisse arriver à un acte, quel qu'il soit, si ce n'est en vertu d'une motion divine. Il faut une motion divine pour pouvoir passer à l'acte. La seconde, c'est une raison spéciale. Non, les deux expliquent cette nécessité d'un auxilium. Cette nécessité d'un auxilium, c'est une loi très générale, c'est que lorsqu'on possède une puissance, on ne passe à l'exercice de l'acte que s'il y a quelque chose qui vient actuer. Il faut donc un auxilium. Exactement comme pour la dynamis. Hein. Vous avez la puissance de voir, mais pour pouvoir passer à la vision, il faut nécessairement qu'il y ait la lumière. Puisque c'est l'analogie de la lumière. Et la lumière vient actuer. Et bien ici, cet auxilium vient actuer. La seconde, alors, est une raison spéciale qui vient de la condition présente de la nature humaine. Et cette condition présente de la nature humaine, c'est l'état de corruption. Alors l'état de corruption, c'est un point d'inertie. À cause de cet état de corruption, nous n'avons pas envie d'agir. Nous sommes dans une attitude réflexe d'inhibition par rapport à l'acte. Comme celui qui est affaibli. À quelqu'un qui est affaibli, il ne passe pas facilement à l'acte. Il y a de la peine à passer à l'acte. Donc il faut un auxilium qui vient l'aider à passer à l'acte. Donc vous voyez les deux raisons. La raison générale au plan métaphysique, tout simplement, le passage de la dynamis à l'exercice. Alors, ça c'est le point de vue tout simplement général. Mais alors, quelque chose de particulier, c'est c'est que notre nature, étant dans un état de corruption, a besoin d'un secours particulier de Dieu. Vous voyez bien ces deux aspects. On va voir les objections. Puis je posais une question. C'est une question très importante. La firme a découvert pas mal. C'est toute la question du doxylie, c'est là-dessus. Il faut bien voir cette question. Première objection. La grâce nous est donnée pour que nous puissions faire le bien et éviter le péché. Si avec la grâce, l'homme ne peut y suffire, c'est que la grâce est donnée en vain ou qu'elle soit imparfaite. Grâce suffisante, grâce efficace. À partir de là, il y a une distinction de la grâce suffisante et de la grâce efficace. La grâce suffisante qui n'est pas efficace. C'est le cœur de l'homme. Vous savez ? C'est une grâce à l'homme. Bon, réponse. Le don de la grâce habituelle ne nous est point fait pour que, une fois en sa possession, nous n'ayons plus besoin d'autres secours divins. C'est toujours la même chose que je vous ai dit. Ne réduisons pas la grâce à la grâce habituelle. Comprenons que la grâce habituelle, c'est cette grâce qui nous est donnée pour nous sanctifier. Et cette grâce qui nous est donnée pour nous sanctifier, qui va nous permettre ensuite d'agir. Toute créature, en effet, doit être conservée par Dieu dans le bien qu'elle a reçu de lui. Par conséquent, si après avoir reçu la grâce, l'homme a encore besoin du secours divin, cela ne permet pas de conclure que la grâce a été donnée pour rien et qu'elle est imparfaite. Même quand nous serons établis dans la gloire et que la grâce aura toute sa perfection, nous aurons encore besoin du secours divin. Ici-bas, la grâce est imparfaite en un certain sens, en ce sens qu'elle ne guérit pas totalement l'homme, comme nous l'avons vu dans l'article. Donc vous voyez, double imperfection, si j'ose dire, disons pas double limite de la grâce sanctifiante. Les deux limites de la grâce sanctifiante. Première limite, c'est que nous sommes dans l'ordre de la capacité par rapport à l'exercice. L'incapacité, la dynamisme, n'explique pas le passage à l'acte. Et donc la grâce sanctifiante n'explique pas le passage à l'acte. Deuxième limite, l'état de corruption. La grâce sanctifiante est une grâce salante, donc elle nous purifie, mais elle ne nous purifie pas radicalement. Et donc il y a encore constamment des obstacles par rapport à l'exercice. Et c'est dans l'exercice même que nous voyons l'état de corruption. L'état de faiblesse dans lequel nous sommes, l'état de nonchalance dans lequel il faut tout le temps se reprendre. C'est pour ça que c'est fatigant. Et ça, c'est l'état de corruption, c'est une conséquence de l'état de corruption. Quelqu'un qui ne serait pas dans l'état de corruption n'aurait plus de facilité, n'aurait toujours quand même besoin du secours. Hein. Le secours ne serait pas supprimé, puisque ça demande que même dans la gloire, nous avons besoin de cet oxygène. Alors vous voyez, l'analogie que donne saint Thomas ici, il donne la différence entre la création et la conservation. Ça, c'est très intéressant. Ça fait une analogie. La grâce habituelle est l'analogue de la création et l'auxilium est l'analogue de la conservation. La création réalise un effet qui existe et cet effet demande d'être conservé par Dieu. La conservation, c'est le premier élément du gouvernement divin. La création et gouvernement divin, il ne faut pas l'oublier. Et ceci, c'est parce qu'il y a deux effets différents. La création pose dans quelque chose de nouveau, un être nouveau, et la création se termine à l'essai. La conservation, c'est que cet essai puisse opérer. Opération sequitur esse. Opération sequitur esse. Eh bien, l'opération sequitur esse, C'est le problème de la conservation. C'est Dieu qui réalise quelque chose, veut que cette réalité puisse atteindre sa fin. Donc c'est dans l'ordre de la finalité. Eh bien, si vous comprenez l'analogie de saint Thomas, vous comprenez donc que la grâce sanctifiante nous est donnée comme une capacité, cause formelle, et que l'auxilium, c'est en vue de la finalité. Création et conservation. Voyons maintenant la seconde objection. Et c'est des questions qui sont. Ça s'inscrit dans tout un ensemble. C'est ça qui est intéressant. C'est pas du tout, parce que ça veut pas fait ici appel à la création et à la conservation, pour bien faire comprendre que nous ne pouvons pas comprendre le traité de la grâce sans avoir toujours présent le traité de la création. Ça, je crois que c'est très important. Oui, parce que ça montre bien l'unité de la doctrine. Le traité de la grâce ne peut pas se séparer du traité de la conservation et de la création. Or, création et conservation, c'est ce qu'il y a de plus métaphysique dans la somme. C'est l'aspect le plus métaphysique. Vous comprenez, quand on supprime la métaphysique, on supprime le traité de la création et le traité de la conservation, et à ce moment-là, on ne peut plus rien comprendre au traité de la grâce. Je vous dis ça, c'est parce que c'est bien. Les théologiens, beaucoup de théologiens d'aujourd'hui, voudraient supprimer le traité de la création et de la conservation. Non, c'est beaucoup trop métaphysique, ça. On n'en parle plus. Si on ne parle plus de la création et de la conservation, vous ne pouvez rien comprendre au traité de la grâce, qui est le point de vue de la grâce sanctifiante et l'auxilium. C'est ça qu'il faut saisir. Alors vous allez me dire, comme ils sont pas assez le traité de la création et de la conservation, ils ne comprennent rien du tout. C'est vrai, il faut bien commencer par vous. Mais c'est très vrai que le traité de la grâce s'inscrit, vous voyez, comme une recréation. Et le traité de l'auxilium s'inscrit dans le traité de la conservation. Alors c'est très important de voir cela, c'est les deux aspects. Alors, seconde objection, par la grâce, c'est l'Esprit Saint lui-même qui habite en vous. La grosse objection des orthodoxes, hein, que saint Thomas souligne avant que ce soit dit. C'est par la grâce, c'est l'Esprit Saint lui-même qui habite en vous. L'Esprit Saint qui est tout puissant suffit certainement à nous faire bien jouir et à nous garder du péché. Donc l'homme déjà arrivé à la grâce peut atteindre ces deux résultats sans aucun autre secours de la grâce. L'Esprit Saint suffit à tout. Tout à fait d'accord. L'Esprit Saint suffit. C'est pas la peine d'en ajouter. Alors faisons attention. Réponse de saint Thomas. C'est intéressant. Alors pensez aux orthodoxes, hein, parce que c'est ça qu'il faut voir. Ça. Parce que pour les orthodoxes, évidemment, la grâce, c'est l'Esprit Saint, et donc c'est pas la peine. C'est pas la peine d'analyser. On est en présence, si vous voulez, d'une position de l'ontologisme qui supprime les causes secondes. Ma branche, pour ceux qui voient un petit peu au point de vue philosophique, c'est ma branche. Pour ma branche, je supprime les causalités secondes. Et donc, le point de vue du créateur suffit. Dieu ne crée pas des êtres libres. Dieu crée des êtres totalement relatifs à lui. Et on n'accepte pas de regarder l'homme dans sa propre causalité. Alors, réponse de saint Thomas. L'action de l'Esprit Saint n'est pas limitée en nous au don de la grâce habituelle. Il opère en effet, mais en outre, il nous meut et nous protège en même temps que le Père et le Fils. C'est l'action de toute la très sainte Trinité de cette auxilium. Mais c'est au fond l'action aussi de l'Esprit Saint en nous. La double action de l'Esprit Saint en nous. C'est évident que quand on agit par grâce, on agit sous la motion de l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint en nous réalise des effets. Et il y a un double effet. Il y a l'effet de la grâce et l'effet de la motion dans l'ordre de l'exercice. Alors, dernière objection. Si l'homme, après avoir reçu la grâce, a encore besoin pour bien vivre et s'abstenir du péché d'un nouveau secours de la grâce, il n'y a pas de raison pour que, ayant obtenu cette seconde grâce, il ne lui en fasse pas une troisième et affiche toujours la grande raison de l'infini. objection. Alors, cette observation que l'on fait dans la troisième objection montre simplement que l'homme qui a la grâce habituelle n'a pas besoin d'une autre grâce habituelle. Alors, vous voyez, pour ceux qui s'intéressent un peu au point de vue métaphysique, parce que c'est quand même pas de prophésie, etc., hein, la métaphysique nous montre qu'il y a l'ousia et l'énergie. Faut tout le temps venir ça. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien du tout. Fondamentalement, toute l'analyse de l'être se ramène à la cause formelle, je veux dire en bref, il y a la cause finale. L'ousia et l'énergie. Vous comprenez que la création est du côté de l'ousia et la conservation est du côté de l'énergie. C'est sûr. Parce que l'énergéia, c'est du côté de la cause finale, et l'ousia, c'est du côté de la cause, selon la cause formelle. Eh bien, vous trouverez quelque chose d'analogue, c'est tout à fait normal. Création, recréation. Et l'analyse métaphysique est fondamentale. Vous trouverez quelque chose d'analogue, grâce à Dieu. L'énergéia, c'est du côté de la cause finale, et l'ousia, c'est du côté de la cause, selon la cause formelle. Eh bien, vous trouverez quelque chose d'analogue, c'est tout à fait normal. Création, recréation. Et l'analyse métaphysique est fondamentale. Vous trouverez quelque chose d'analogue, grâce habituelle, grâce l'oxygène, la motion. La grâce habituelle, et du côté de la cause formelle, elle sanctifie et elle vient transformer notre être pour permettre que notre être devienne la demeure du Saint-Esprit. Mais nous comprenons très bien que cette grâce ne peut pas se comprendre sans cet auxilium qui est la motion qui permet d'atteindre la fidélité. Donc vous retrouvez, c'est ça qui m'intéresse au point de vue de l'analyse théologique, hein, vous retrouvez exactement la même chose que fondamentalement point de vue métaphysique. L'être, il est un, mais il s'analyse. La grâce, elle est une dans l'Esprit Saint, mais elle s'analyse. On analyse la grâce en voyant la grâce sanctifiante et en voyant l'oxygène. Oui. Mais tous les deux proviennent du Saint-Esprit. Et tous les deux, c'est l'Esprit Saint en nous. Et c'est l'Esprit Saint en nous qui transforme et surnaturalise notre nature humaine par la grâce habituelle et qui nous permet d'atteindre notre fin par l'oxygène. Oui.
L'analogie, en prenant l'ousia comme la cause habituelle comme le tiesti et l'oxygène comme le pose, est-ce que c'est une.
Ah, la pose, l'énergie, non.
Est-ce que c'est une analogie qui serait. Oui, mais est-ce qu'on peut prendre aussi l'analogie du pose et du tiesti?
Non, parce que nous sommes dans l'analyse. Nous sommes dans l'analyse des deux effets de l'Esprit Saint en nous. Les deux effets de l'Esprit Saint en nous, pour nous sanctifier, c'est de nous donner la grâce sanctifiante. Alors j'ai dit l'analogue et l'ousia, vous voyez. C'est l'analogue à cela, comprenons bien. Hein, c'est, puisque ça n'a pas fait l'appel à la création et à la conservation. La création, c'est toujours, la création se termine à la réalité qui subsiste en acte. Qui subsiste dans son exercice, dans son essai. Et la conservation, c'est conduire à la finalité. Ce sont des distinctions, sans pas des séparations, ce serait complètement idiot de couper en deux le poulet. Je ne dirais pas, on ne veut pas. Mais ce sont des distinctions que nous faisons. Des distinctions entre le point de vue de la création et la conservation. En Dieu, il n'y a qu'un seul acte, c'est évident. La conservation et la création, c'est par rapport à nous. Exactement la même chose ici. La grâce habituelle et l'auxilium a comme unité l'Esprit Saint qui nous réhabilite en Dieu, qui nous recrée en Dieu, qui fait en nous des enfants de Dieu. Mais l'action de l'Esprit Saint en nous a un double effet, la grâce sanctifiante et l'auxilium, la motion.
Cet auxilium, est-ce que c'est ce qu'on appelle la grâce actuelle?
Oui, au fond, c'est la grâce actuelle. Si vous connaissez l'oxygène, c'est évident. Oui, non, l'oxygène est plus vaste. Et c'est dans l'oxygène que vous direz la grâce actuelle. C'est la motion.
La motion dans la
oui, la motion pour agir. Alors, c'est bien que c'est la grâce actuelle. Mais vous voyez, quand vous dites motion, la grâce actuelle, j'aime mieux le terminologie de prendre Saint-Thomas ici. On verra après de la grâce. J'aime mieux prendre ici cette terminologie qu'on prend de l'auxilium qui nous donne la motion, donc qui est en vue de la finalité, qui ne peut se comprendre que du côté de la finalité, et la grâce habituelle qui nous sanctifie dans notre nature même.
Il y a que cette analyse qui explique la possibilité de la prière, la raison de la prière, ce que disait dans le...
Si on dit j'ai la grâce habituelle, j'ai plus besoin de prier, mais pas du tout. Vous avez besoin constamment du secours de Dieu. Et ce secours de Dieu est là pour vous faire passer, vous voyez, vous faire passer de cette capacité d'agir à l'action. Vous avez la grâce habituelle, vous avez la grâce habituelle, vous avez un état de sanctification, mais ce n'est pas suffisant. Cet état de sanctification, d'abord, il y a l'état de corruption qui demeure. Et donc, si vous ne passez pas à l'acte, vous laissez l'état de corruption prendre possession de plus en plus. C'est le sauvage qui risque de grandir. Lui n'attend pas. Hein. Et si vous ne passez pas à l'acte, donc si vous n'exercez pas constamment la prière, vous laissez le sauvage pousser. Et c'est pour ça qu'on doit toujours, toujours revenir à cet auxilio, à cette motion actuelle.
Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont deux analyses comme Lucia et Napoléon?
Oui, c'est pour ça.
C'est peut-être la même analyse si on dit que l'acte est antérieur.
J'ai dit fondamentalement, nous rejoignons l'analyse. C'est pour que nous comprenions la structure de la théologie. Fondamentalement, nous rejoignons la structure de la métaphysique de Lucia et Napoléon. Mais qui commande tout. Une fois qu'on a compris ça, on a des paliers différents. Alors faisons attention aux paliers différents, parce que ce sont des paliers très très différents. Alors je peux regarder les paliers, c'est intéressant, si vous voulez, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Premier palier, là je suis dans l'analyse métaphysique. Le premier palier, c'est celui-ci. Alors là, je suis dans une vision de sagesse, de métaphysique. Au point de vue métaphysique, je peux parler de création et de conservation. Troisième palier, la grâce. Et je retrouve à ces niveaux différents la même coupe d'analyse. C'est ça qui m'intéresse. Et si je ne comprends pas cette coupe d'analyse à ce niveau-là, je ne peux pas la comprendre à ce niveau-là et je ne peux pas la comprendre à ce niveau-là. Alors je suis devant une espèce de mélasse pour voir comment on interprète ce point de vue-là quand on ne comprend pas cette première distinction fondamentale de l'intelligence qui essaie de comprendre ce que c'est que l'être. Je ne peux pas comprendre la création et la conservation si je n'ai pas fait l'analyse de Lousiade et d'Erléon. Absolument impossible.
Ce que je voulais dire, c'est si ce n'était pas uniquement en comparaison de Dunamis, l'analyse puissance et d'Erléon plutôt que Lousiade. Si ce n'était pas une seule analyse.
Au plan métaphysique. Je comprends ce que vous dites. C'est pour ça que je dis respectons les plans. Nous retrouvons une analyse à l'énorme, vous voyez. Puisque Saint-Thomas fait deux analogies. Il y a l'analogie de la création et de la conservation. Il y a l'analogie de la dynamique et de l'acte. Alors, pour imaginer 4, ou 3, si vous voulez. 3 et ici 4. Ce serait plus juste. Et alors, le numéro 4 de la grâce et de l'auxilium, il y a deux analogies qui jouent. Il y a l'analogie de la dynamique et de l'acte. Et il y a l'analogie de la conservation et de l'acte. Vous voyez ? Et fondamentalement, l'analogie de la création, de la conservation et de la dynamisme et là se repose sur l'usure et l'énergie. Vous voyez ? Parce qu'il y a les deux analogies que ça ne peut pas faire sortir. Hein. Il n'y a pas qu'une seule analogie. Il fait une analogie au niveau de la dynamisme et de l'exercice. Ça, c'est le point de vue de Saint-Augustin. Et Saint-Thomas fait intervenir création et conservation. Et faisant intervenir cette seconde analogie, je peux moi faire montrer le fondement de ces deux analogies. Et le fondement de ces deux analogies, c'est Lousia et Napoléon. Oui, c'est pour ça que cet article est si difficile, hein, parce qu'il fait une synthèse de tout. C'est très net.
Esprit Saint dans le ventre de sa mère, comme il n'avait pas une nature immaculée, on peut conclure qu'il a reçu tout de suite sa conception de grâce sanctifiante.
Absolument. Il avait la grâce sanctifiante,
sa deuxième grâce.
Il était sanctifié tout de suite. Oui. Quand on dit quelqu'un est sanctifié, c'est la grâce habituelle. Oui. Et bien le tressaillement, c'est le signe. L'invocation charismatique. Oui.
Je crois que je peux le dire. On peut dire que je peux porter un jugement d'existence sur le fait que je suis, par exemple. Est-ce que je peux porter un jugement d'existence sur je suis sauvé? Est-ce que je peux dire je suis sauvé? C'est sûr.
Je suis sauvé, en soi.
Je suis sauvé.
Je crois que c'est un autre problème en moi.
Oui, c'est la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est je suis sauvé. Je suis sauvé, mais je ne suis pas encore dans le ciel. Hein? Et alors, c'est pour ça qu'il y a l'oxygène. La création, je suis sauvé. Et la conservation, je tends vers le ciel. Je n'y ai pas encore. Et même quand vous serez dans le ciel, vous pourrez dire je suis dans le ciel et je suis sous la notion de Dieu. Et je suis conservé par Dieu. Encore le truc, ça donne vie.
Que Marie a
besoin d'un auxilium. Oh, c'est évident, elle est une créature.
Mais
l'immaculée? Ça n'a pas d'importance. L'immaculée, c'est du côté de la grâce sanctifiante. Toute créature, c'est la distinction, de, justement, la différence de Dieu. Il y a grand Dieu ou il n'y a pas d'auxilium. Parce que Dieu est acte pur. Et toute créature a besoin de ça.
Puisque vous dites que. L'auxilium, c'est par rapport à l'état de corruption en Marie.
Non, je n'ai pas dit ça. Il y a deux raisons. Première raison générale, et seconde raison, donc l'auxilium est encore plus nécessaire à cause de l'état de corruption. Il y a deux raisons. Hein. N'oubliez pas la première. Et la première, elle est au niveau de la créature. Et la seconde, elle est encore plus importante. Autrement dit, vous avez encore plus besoin que Marie d'auxilium. Voilà, tout simplement. Mais Marie en a besoin. Et Marie, même dans le ciel, vide cet auxilium. Voilà. Je veux le comprendre d'une autre manière, parce que c'est quand même très important. Il faut arriver petit à petit à comprendre cette vision de saint Thomas, qui est une analyse très très belle, qui, je vous dis, a été reprise de multiples manières. D'ailleurs, si on regarde dans la scolastique, ça deviendra les prémotions physiques, vous voyez. L'auxilium, la motion, toutes ces choses-là. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir, et ça permettra peut-être de mieux comprendre les deux analyses. Je vois la grâce habituelle et l'auxilium. Tout est là. Voir les liens entre les deux et la nécessité des deux et comment les deux se tiennent. C'est ça, le corps de l'article, c'est ça. C'est d'essayer de comprendre qu'on a besoin. Je ne peux pas parler uniquement de la grâce habituelle, je peux distinguer, mais je ne peux pas séparer. Vous comprenez bien, je ne peux pas séparer. Je ne peux pas séparer la grâce habituelle de l'auxilium. L'auxilium, c'est la motion. Je vis sur une motion de Dieu. La motion, de toute façon, tout à fait générale. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, la grâce habituelle, actuelle. Une motion de Dieu, mais... Je prends de fait. Donc, saint Thomas, pour bien faire comprendre cette distinction, donne deux analogies. Comme toujours, hein, je vous ai déjà dit, quand on veut comprendre saint Thomas, il faut saisir les deux analogies. La théologie joue toujours avec deux analogies, la théologie scientifique. Il faut découvrir ces deux analogies. Tant qu'on n'a pas découvert ces deux analogies, on n'a pas saisi. Alors, il y a deux analogies. Première analogie, au niveau de la vie. Deuxième analogie, au niveau de l'être. C'est ça qui est intéressant. Oui. Il y a une analogie au niveau de la vie et une analogie au niveau de l'être. Comme presque toujours. Hein. L'analogie au niveau de la vie. On prend l'exemple de la dynamis. Il prend l'exemple de la dynamis, c'est-à-dire la capacité de voir. La capacité de voir. Ça, c'est au niveau de la dynamis, de vision. Et le point de vue de l'exercice. La vision. Qui réclame la lumière pour rejoindre Saint-Augustin.
Ça, on voit bien qu'au niveau même de l'analyse du vivant, j'ai la capacité de voir et l'exercice. Vous savez bien que ça, Aristote prend ça pour expliquer la découverte de l'art, la capacité de voir et de vivre. Ça fait partie de l'expérience qui prend le point de départ de la grande analogie, de la grande induction synthétique. C'est intéressant de voir ça aussi. Deuxième analogie, l'analogie création. Conservation. Là, on essaie de le mettre. Donc, c'est beaucoup plus fondamental.
La lumière est formelle comme causalité par rapport à la lumière.
Non, non, la lumière actue.
La lumière pour l'œil.
Non, la lumière actue, elle est acte du diaphragme. C'est la couleur qui est formelle.
La lumière est pour la couleur, son acte, mais pour l'œil.
La lumière est acte du diaphragme. Je prends la perspective ancienne. Tel que Saint-Thomas le prend. La lumière actue le diaphane, actue la couleur et permet à la couleur de déterminer.
C'est la couleur.
C'est la couleur qui spécifie. Et la lumière est du côté de l'émotion. Elle ne spécifie pas, elle est une émotion. Dans l'autre exercice. Oui, donc elle est du côté de l'acte. Elle est du côté de l'acte. Et au fond, nous avons ici conservation. Et création. Alors je dis ces deux analogies, comprenons bien, ces deux analogies sont compréhensibles si je vois la métaphysique de Lucia Guénaré. Vous voyez ? Pour bien voir ces deux analogies qui expliquent ces deux points de vue, eh bien, il y a quelque chose de fondamental vis-à-vis de ces deux analogies, c'est la distinction métaphysique de Lucia Guénaré. Ceci montre l'importance, mais c'est pour montrer que la métaphysique n'est peut-être pas immédiatement présente dans cet article, mais elle est fondamentale. Je ne comprends pas ces deux analogies dont saint Thomas se sert si je ne vois pas cet aspect fondamental de la métaphysique. Mais c'est difficile, hein. Vous voyez comme c'est complexe un article comme celui-là. On joue sur un, deux, trois paliers. Le quatrième, c'est la faute de la grâce. Je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre l'argumentation de Saint-Thomas, qui montre le rapport entre l'oxydium et la grâce, si je ne vois pas ces deux analogies, et ces deux analogies ne peuvent pas se comprendre s'ils ne voient pas la métaphysique de Lucia Guénaré. Ah, vous voyez, qu'est-ce qui peut comprendre ça? Aujourd'hui, hein, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut comprendre ça? Parce que qu'est-ce qui comprend la métaphysique de Lucia Guénaré? Alors, je ne comprends pas ces deux analogies-là si je ne vois pas celle-là. Je disais pour montrer combien ça peut être difficile hein, dans notre monde d'aujourd'hui. C'est vrai. Pour si on fait un peu de métaphysique, c'est pour pouvoir lire saint Thomas. Hein. Et lire saint Thomas, c'est pour clarifier certains problèmes qui nous aident ensuite à ne pas tomber dans certaines erreurs. Parce qu'on pourrait en faire l'économie. Je n'ai pas besoin de tout ça. Mais si on veut comprendre profondément la manière dont le Saint-Esprit travaille, tout ça est basé sur les Écritures. Hein. Si on veut comprendre jusqu'au bout la manière dont l'Esprit Saint travaille, on voit que l'Esprit Saint a ce double aspect. Il nous rend fils de Dieu, donc la déiforme, la grâce habituelle. Et si on est déiforme, on agit en fils de Dieu. On a déjà en fils de Dieu l'exercice. Oui.
Est-ce que vous pouvez dire en deux mots quelle est la position de Luther par rapport à ça?
La position de Luther par rapport à ça, elle est assez simpliste. Hein. Puisqu'au fond, pour le face à Pélage, saint Augustin rappelle la nécessité de la grâce et la nécessité d'oxygène. La double nécessité. Il y a les deux nécessités. C'est pour Pélage hein, et pour ce que seront les semi-pélagiens ensuite. N'est-ce pas, ce sera de dire c'est la nature suffit. La position diamétralement opposée de Luther. La nature est totalement corrompue. Alors, il n'y a plus que la grâce. Et parce qu'il n'y a plus que la grâce, la nature ne joue plus. Donc vous n'avez plus besoin de distinguer plus. C'est tout. Et vous direz que c'est le Saint-Esprit qui opère en nous.
Tandis que là, pas du tout. Nous voyons que la grâce sanctifie la nature, ne détruit pas la nature. Et c'est parce que la grâce ne détruit pas la nature que vous pouvez faire cette analogie au niveau de la vie et cette analogie au niveau de l'être. Vous comprenez que si la grâce détruisait la nature, l'analogie au niveau de la vie, parce que ça c'est ma vie à moi, c'est ma vie humaine, et l'analogie au niveau de l'être ne signifierait que du tout. Donc vous n'auriez plus qu'une seule chose à dire, mais non. Mais dites que tout ce qui provient de l'homme est corruption, et que seul ce qui provient de Dieu, alors vous ne voyez plus la coopération de l'homme et la nature. La coopération de l'homme est Dieu. La coopération de l'homme est l'Esprit Saint. Oui. Pour comprendre la coopération de l'homme et l'Esprit Saint, il est nécessaire de voir distinction de la grâce habituelle et de l'auxilium. Je suis toujours en état d'alerte par rapport à cet auxilium. Dieu me demande tout le temps d'être dans cet état d'accueil, et non seulement dans cet état d'accueil, mais dans cet état de celui qui coopère. Je coopère avec Dieu, je fais œuvre commune avec Dieu. Il ne faut pas dire, la grâce m'est donnée, eh bien c'est seulement Dieu n'a pas du tout. Dieu veut que je coopère. Et ça, c'est l'auxilium qui fait comprendre ça.